L'imitation de Mohammed. Dans la religion chrétienne, le croyant est invité à agir conformément aux enseignements du Christ. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'un chrétien doit modeler chaque aspect de sa vie sur Jésus. Le chrétien n'essaie pas, par exemple, de manger la même nourriture ou de dormir dans la même position que Jésus. Le mot hadith signifie propos, conversation. Il sert à désigner tout récit, transmis oralement à quelqu'un, racontant ce qu'a fait ou dit une autre personne. Au début de la propagation de l'islam, les compagnons de Mohammed faisaient partager aux nouveaux convertis tout ce qu'ils savaient sur la vie et les paroles de Mohammed. Les fidèles des communautés musulmanes importantes, comme celle du Maroc ou d'Indonésie, qui venaient en pèlerinage à la Mecque, écoutez le chapitre 9, échangeaient entre eux des hadiths. Aujourd'hui encore, le pèlerinage est l'occasion de rencontrer d'autres communautés et d'échanger des informations et des témoignages, mais l'ère de la collecte de nouveaux hadiths est révolue. Les hadiths se composent de deux parties. Isnad, partie 1. La première partie est la chaîne de transmission du récit qui passe par les personnes, isnad. Si quelqu'un me dit quelque chose au sujet de quelqu'un d'autre, je veux connaître la source de son information, parce que rien ne vaut la source en matière d'information. Matn, partie 2. La deuxième partie est le contenu réel, matn, du récit. On peut considérer l'isnad comme l'introduction et le matn comme le corps du hadith. À retenir. Voici un exemple d'isnad. Bukhari, de Muslim ibn Ibrahim, le tenant lui-même de Hisham, qui le tenait lui-même de Yahya ibn Ikrima, le tenant de Ibn Abbas. Commence alors le récit sur un fait ou un dit de Mohammed condamnant les hommes qui se comportent comme des femmes et vice-versa. Voici un exemple de matn. L'homme, quel qu'il soit, qui, ayant une esclave, l'éduque, lui donne une bonne instruction, l'affranchit et l'épouse, aura une double récompense. In Bukhari, les traditions islamiques, tome 2, Maison Neuve, 1906-1914, page 176. À retenir. Un hadith contient un ou plusieurs de ces quatre grands types d'informations. Quelque chose que Mohammed a fait, quelque chose que Mohammed a dit, quelque chose qui s'est produit en présence de Mohammed, paroles de Dieu à Mohammed qui ne sont pas dans le Coran, hadith Qudsi. Autre manière d'envisager le contenu des hadiths. Anecdotes ou récits qui complètent des informations sur la vie de Mohammed ou d'autres personnages antérieurs, par exemple le Joseph de la Bible, qui n'est pas dans le Coran. Considération d'ordre juridique où Mohammed interprète et applique le Coran ou donne des directives spécifiques concernant des questions de rite ou de loi. Considération morale qui renforce la motivation à vivre selon les valeurs de l'islam. La biographie traditionnelle, Sirat, de Mohammed, écoutez le chapitre 6, est une compilation des deux premiers types de hadith. Les musulmans qui souhaitent imiter la vie de Mohammed, jusque dans ses plus petits détails, se réfèrent à ces récits.
Conseil. La tradition, sunna ou hadith. Pour ceux qui auraient du mal à faire la distinction entre les deux termes sunna ou hadith, qui se traduisent habituellement tous deux par « tradition », voici comment faire la différence. La sunna de Mohammed regroupe la totalité de ce que Mohammed a fait et dit. La sunna n'est pas une forme de littérature ou d'écriture. Il s'agit de la tradition prophétique. Un hadith est un récit individuel de ce qu'il a fait ou dit. Il s'agit non pas de la tradition, mais d'une tradition. Le hadith est un genre littéraire. Mais comment sait-on ce qu'il a fait et dit ? Eh bien, on connaît la sunna de Mohammed grâce aux hadiths passés concernant Mohammed. La somme des hadiths recueillis constitue les archives écrites de la sunna de Mohammed. Ainsi, logiquement, la sunna existe avant les hadiths, de la même manière que les traditions de votre famille, ou de votre école, ou de votre organisation sociale, précèdent tout ce que l'on a pu dire ou écrire à propos de ces traditions. En arabe, le mot sunna a au départ le sens de « règle de vie », « norme à respecter ». Avant la période de Mohammed, chaque tribu ou clan avait ses règles de conduite. Par la suite, la sunna de l'Umma musulmane, la communauté, a remplacé la sunna des tribus. Puisque les contemporains de Mohammed tenaient leurs informations directement de Mohammed lui-même, la sunna a également inclus les coutumes de la première et de la deuxième génération. Mais progressivement, au fur et à mesure que le temps s'écoulait et les éloignait de l'époque de Mohammed, les musulmans ont commencé à comprendre la sunna comme se référant principalement à la tradition qui se rapportait à Mohammed, plutôt qu'à la tradition de la communauté tout entière, comme cela est confirmé dans les hadiths. La sourate 23-21 reflète ce point de vue sur Mohammed quand elle dit « En effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle. » L'opposé de la sunna est l'innovation, bid'a. Pour certains, l'innovation en religion est équivalente à l'hérésie. Mais dans l'islam, l'innovation peut être bonne ou mauvaise. La bonne innovation permet aux musulmans de vivre plus authentiquement une vie selon l'islam. La mauvaise innovation implique l'abandon des croyances et des modèles définis dans la tradition et le Coran. Ainsi, le fait de qualifier de bonne ou de mauvaise une innovation est plus une question de regard porté sur tel ou tel sujet que véritablement lié à l'innovation elle-même. Par exemple, les juristes musulmans conviennent que la célébration de l'anniversaire de Mohammed, le Maoulid, fut une innovation en son temps, ce qui signifie que cette fête n'est pas mentionnée dans le Coran et n'est pas rapportée dans les traditions qui sont censées venir de Mohammed et de la première génération de musulmans. Pour le théologien juriste conservateur du XIVe siècle, Ibn Taymiyyah, la célébration du Maoulid était une mauvaise innovation, tandis que pour Al-Ghazali, le grand théologien du XIe siècle, le Maoulid était une bonne innovation. Pour en savoir plus sur le Maoulid, écoutez le chapitre 10.
Pour aller plus loin, les premiers hadiths ont été rassemblés et classés sous le nom du compagnon qui est à l'origine d'un hadith. Par la suite, le classement s'est effectué par thème. Ces recueils de hadiths occupent une place presque aussi importante que le Coran lui-même qui fait autorité. Les musulmans citeront des hadiths spécifiques pour étayer des croyances et des pratiques islamiques spécifiques tout autant qu'ils citent le Coran. Si l'on cite, par exemple, le Bukhari 24-13, cela signifie que l'on se réfère au livre 24, chapitre 13 du recueil de hadith d'Al-Bukhari. En dehors des œuvres de Bukhari, on trouve également des références aux collections de hadith compilées par Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi et Ibn Majah, tous de grands narrateurs de hadith des 8e et 9e siècles. Les chiites ont leur propre collection de hadiths. Pour lever le voile sur les musulmans de ce mouvement et connaître leur propre tradition, écoutez le chapitre 12. Un recueil peut contenir en moyenne plusieurs milliers de hadiths. Il est possible de s'en procurer sur CD ou de les consulter sur Internet.
Pour aller plus loin, le hadith. Toute une histoire. À l'époque du calife Omar II, qui a régné de 717 à 720, les musulmans ont cherché à préserver les hadiths pour pouvoir les transmettre aux générations futures. Omar a confié à l'historien Al-Zuri la mission de les rassembler et de les consigner par écrit. Par la suite, Cet effort de collecte de toutes les traditions se rapportant à Mohammed s'est accéléré. Les narrateurs de Hadith n'ont pas hésité à voyager pour aller à la recherche de toutes les traditions existantes. La transmission des hadiths se développa selon des règles élaborées permettant de les authentifier avec certitude.
Textes sacrés. Les recueils de hadiths les plus connus contiennent des milliers d'histoires. Il fallait trouver un moyen de rendre ces hadiths plus facilement accessibles aux musulmans ordinaires. C'est pourquoi certains historiens ont fait de petites compilations des hadiths les plus importants. Le plus populaire reste sans doute encore aujourd'hui le récit des 40 traditions d'Al-Nawawi, 1233-1277, qui sert à l'édification des jeunes musulmans. Voici un aperçu de 5 hadiths très connus rapportés par Al-Nawawi et qui sont commentés par Louis Pouzet dans un livre en français paru à Dar el-Mashrek, à Beyrouth, en 1982. Comme il est de coutume dans tous les hadiths, on y retrouve les paroles mêmes que Mohammed est censé avoir prononcées. « Ce que j'ai déclaré comme interdit, évitez-le. Ce que j'ai recommandé que vous fassiez, faites-le dans la mesure du possible. Ne vous fâchez pas. Là où il y a de la peine, il n'y a pas de récompense. Quiconque se montre hostile à l'un de mes amis, je lui ferai la guerre sans hésiter. Par égard envers ma personne, Dieu n'a pas tenu compte des erreurs et des manquements de ma communauté. Avec le temps, le nombre de traditions attribuées à Mohammed s'est multiplié. Les historiens musulmans ont reconnu que tous les hadiths n'étaient pas historiquement fondés. Parfois, certains, à tort, mais en toute sincérité, ont cru transmettre honnêtement des paroles censées venir de la bouche de Mohammed ou de ses disciples. Certains ont inventé les hadiths qu'ils ont attribués à Mohammed pour soutenir une position particulière dans des batailles théologiques ou politiques de leur époque. 8e et 9e siècle. Les historiens de hadith ont élaboré des critères pour déterminer la validité de tout hadith spécifique, c'est-à-dire qu'il datait bien de Mohammed. Ces historiens ont classé les hadiths selon 3 degrés de validité, du plus valide au moins valide. Sain, sahih, authenticité presque certaine. Bon, Hassan, très probablement vrai. Faible, da'if, ne peut pas être considéré comme authentique à moins qu'il ne soit confirmé par d'autres traditions. Comment ces historiens ont-ils déterminé la validité d'une tradition? Ils ont examiné principalement l'isnad, la chaîne des personnes qui ont transmis le récit, en prenant en considération les points suivants. Évaluation de la personne qui a retransmis le hadith. Était-elle de bonne moralité? Les autres traditions qu'elle a rapportées étaient-elles fiables? La chaîne de transmission a-t-elle bien été respectée? A-t-elle été logiquement possible? La personne qui a reçu le hadith d'une autre personne a-t-elle pu côtoyer à un moment ou à un autre cette personne de sorte que l'information a pu passer de l'une à l'autre? Y a-t-il des preuves qui attestent que ces personnes ont pu être au même endroit en même temps? Y a-t-il eu plusieurs chaînes de transmission? Si tel est le cas, la validité du hadith est beaucoup plus forte qu'en cas de transmission unique. La tradition en question est-elle présente à la fois dans le recueil de Bukhari et dans celui de Muslim, les deux plus grands recueils de hadith? Pour aller plus loin, certains historiens occidentaux, dont Goldziher, Schacht et Coulson, considèrent plusieurs de ces hadiths comme des fabrications sans valeur historique. Ces chercheurs font état d'anachronismes dans le texte, allusion à des conflits au sein de l'islam après la période de Mohammed, à des endroits et à des gens qui ont vécu après Mohammed. Ils font remarquer qu'on ne peut pas séparer les hadiths valides des hadiths non valides. Ils affirment que les isnades détaillées ont été rajoutées plus tard au premier hadith, et par conséquent, que la présence de ces isnades n'établit pas l'historicité des traditions. Certains réformateurs musulmans des 19e et 20e siècles ont invoqué les hadiths à l'appui de diverses propositions de modernisation ou à l'appui de propositions traditionalistes visant à restaurer l'islam dans sa pureté originelle. Les réformateurs peuvent tirer parti d'un hadith allant dans le sens d'une pratique d'aujourd'hui pour faire valoir, par exemple, le fait que les traditions montrent que Mohammed permettait aux femmes d'aller à la mosquée. Ces hadiths servent d'arguments opposables à tous ceux qui sont plutôt contre la participation des femmes dans les cérémonies à la mosquée. Voici un exemple. Le penseur musulman féministe contemporain Rifat Hassan a examiné 6 hadiths qui ont été employés dans l'islam pour soutenir l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes. Chacun des 6 mentionne le fait que la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme, plusieurs allant même jusqu'à dire qu'elle a été créée du bout incurvé de la côte, la partie la plus faible. 3 de ces hadiths font partie des recueils de Bukhari et 3 des recueils de Muslim, les 2 recueils de hadiths les plus importants, ce qui suggère que ce sont des hadiths saints. Après examen plus approfondi, Hassan précise que chacun des 6 hadiths renvoie, dans leur isnad, à un contemporain, compagnon de Mohammed appelé Abu Hurayra. Le célèbre juriste du 8e siècle, Abu Hanifa, considérait que Abu Hurayra n'était pas un transmetteur de hadiths fiables. Hassan en conclut que ces 6 traditions sont plutôt faibles et qu'elles ne peuvent pas servir à étayer l'idée que les femmes ont un rôle subalterne. Cette argumentation repose sur l'idée que les paroles rapportées dans les hadiths ne remontent pas à Mohammed, mais qu'elles sont l'expression d'un préjugé contre les femmes qui est entré dans la culture musulmane après la période de Mohammed.